Il y a quelques années, un de nos prédicateurs, M. Turner, fut invité par une grande église à s'exprimer sur le thème « Si je n'avais plus qu'un sermon à prêcher ». J'ai été frappé par le caractère exceptionnel, particulier, de la circonstance et du sujet. Voici pour vous l'essentiel de son exposé. Mes amis, je suis sincèrement reconnaissant d'avoir été invité par votre pasteur à m'exprimer devant vous sur un sujet aussi important, je dirais même aussi impressionnant. Les circonstances de notre rencontre aujourd'hui doivent nous rappeler l'injonction de l'apôtre Pierre. Soyez toujours prêts à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Il m'est agréable d'être parmi vous, d'autant plus que je suis assuré du fait que je vais rencontrer de votre part une grande objectivité. Prions qu'il résulte dans notre réunion le plus grand bien. Nous savons tous que les croyances et les pratiques religieuses varient beaucoup d'une église à l'autre. Dans un monde chrétien aussi divisé, nous sommes au moins unis dans une même attitude, à savoir que nous déplorons cet émiettement d'une part, et que d'autre part, nous reconnaissons à chaque homme le droit et le devoir de penser pour lui-même, d'examiner les données des croyances auxquelles on lui demande d'adhérer et d'arriver à des conclusions et des convictions personnelles. Il y a cependant des points communs plus importants encore. Nous regardons à un même Dieu. Christ est pareillement accueilli de part et d'autre comme le sauveur de l'humanité. En outre, nous croyons tous que la Bible est inspirée de Dieu. Elle est donc sa parole infaillible, apte à orienter notre vie, à déterminer notre destinée. Non seulement sommes-nous d'accord sur ces questions essentielles, mais on peut aussi constater que parmi toutes les églises qui nous entourent, ou parmi leurs différentes sectes, il existe de nombreux points communs quant à la doctrine, quant au culte et à la vie de tous les jours. L'étude de la Bible occupe en majorité parmi nous une place importante. Nous croyons tous dans la prière. Presque tous, nous croyons que la foi est une condition essentielle au salut. En outre, la plupart des églises pratiquent un rite que l'on appelle baptême, et sans aucun doute, quelles que soient nos préférences religieuses, nous croyons tous au caractère vital et donc indispensable de ces grandes vertus chrétiennes qui s'appellent l'honnêteté, la droiture, la pureté, l'amour et la bonté. Devant autant d'affections et de bases communes, on comprend mal ce qui a pu provoquer une telle division dans les rangs des croyants. Voici quelques exemples. Puisque nous venons de parler du baptême, nous sommes en désaccord quant à la forme de ce rite. Nombreux sont ceux qui ont choisi l'aspersion, tandis que d'autres désirent retenir la forme originelle qui est l'immersion complète. Qui peut être baptisé? Et quelle est la raison d'être du baptême ou son but? Voilà d'autres questions qui obtiennent des réponses diverses, aussi convaincues apparemment les unes que les autres, mais contradictoires. La Sainte Cène constitue un autre sujet de discorde. Elle fait partie de presque tous les cultes. Mais tous ne la célèbrent pas à la même fréquence. Et tous ne lui donnent pas le même nom, ni la même signification. Toutes ces divergences parmi d'autres se sont en quelque sorte cristallisées, durcies, dans le choix des noms de partis, lesquels proclament et honorent tel rite, tel fondateur, telle doctrine. Tous se proclament chrétiens sans doute, mais on sent que ce n'est pas là le titre qui importe le plus. On tient à signaler de quelle couleur on est, à quel parti de chrétien on appartient. Nous déplorons sincèrement cette mentalité sectaire. Ainsi, quoique professant quelques croyances fondamentales communes, nous sommes résolument divisés et incapables, dans ces conditions, de convertir le monde au Christ. Nous savons pourtant que Jésus a désiré une Église unie, un seul corps. Il formula ce désir dans une prière célèbre, « Qu'ils soient tous un comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, qu'ils soient tous un en nous pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » Nous connaissons aussi l'injonction fervente de l'apôtre Paul. Dans son épître aux Corinthiens, il écrit « Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Car, mes frères, j'ai appris à votre sujet qu'il y a des disputes au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Pierre, et moi de Christ. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé? Le théologien Jean Hering, commentant ce texte, remarque à juste titre: il est difficile de méditer ces vérités sans s'étonner que des chrétiens qui connaissaient cet épître aient jugé bon d'accepter le nom de dominicain ou de franciscain ou de luthérien, de calviniste ou de wesleyen. Il faut noter d'ailleurs ce que certains de ces hommes pensaient de cette tendance au sectarisme. Luther, par exemple, déclara « Je vous prie de laisser mon nom en paix et de ne pas vous appeler luthérien, mais chrétien. Qui est Luther? Ma doctrine n'est pas de moi. Je n'ai pas été crucifié pour personne. Cessez, mes chers amis, de vous attacher à ces noms de partis pour vous distinguer les uns des autres. Qu'ils soient tous rejetés au loin. Contentons-nous de nous appeler chrétiens d'après celui duquel provient notre doctrine. » Charles Spurgeon, le grand prédicateur baptiste, a tenu le même langage quelques siècles plus tard, lorsqu'il dit « Vienne le jour où il n'y aura plus un seul baptiste. J'espère que le nom baptiste périra bientôt, mais que le nom de Christ vive à jamais. » Pour que se fasse l'unité chrétienne pour laquelle le Christ a prié, il faut que le Nouveau Testament devienne la seule règle de foi et de pratique de tous les croyants, à l'exclusion de tout autre credo. Par le choix de ce seul critère, des millions de croyants devront renoncer à certaines parties de leur credo, mettre de côté certaines pratiques non bibliques et éventuellement en adopter d'autres. Ceci implique sacrifice, humilité, mais c'est le prix qu'il faut payer si nous voulons répondre à la prière du Christ. Nous pourrions aujourd'hui, à la lumière du Nouveau Testament, revoir ces questions si importantes de l'Église, de son organisation, de son gouvernement, de son culte, de sa vie dans le monde. Mais nous ne pourrions qu'effleurer ces sujets. Venons-en plutôt à un sujet qui nous concerne tous plus directement, plus individuellement. Je veux parler du plan de Dieu pour le salut de l'homme. Nous verrons comme les enseignements du Nouveau Testament sont parfaitement clairs, combien l'on s'en est pourtant écarté et combien tout serait simplifié si nous pouvions consentir à nous unir sur la base des commandements et des exemples qui nous sont donnés. Tout d'abord, il faut la foi. Nous sommes tous de cet avis. Mais nos divergences commencent lorsqu'il s'agit de définir tout ce que cette foi embrasse. Nombreux sont ceux, par exemple, qui enseignent que la foi qui sauve, c'est celle qui consiste à reconnaître que Dieu existe et que Jésus est son Fils. Rien d'autre n'est exigé de la part de celui qui cherche. La foi seule le sauvera. Il est très intéressant de noter que le seul endroit dans le Nouveau Testament qui utilise le membre de phrase « la foi seule » déclare précisément que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Il ne s'agit pas évidemment des œuvres de mérite, mais d'expression de la foi qui en découle naturellement, inévitablement, et qui en quelque sorte authentifie cette foi. L'exemple biblique illustrant ces œuvres de la foi est sur ce point très lumineux. Il s'agit d'Abraham qui n'a pas hésité à offrir son fils Isaac. Son obéissance à la voix de Dieu était une œuvre de sa foi. « Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, » dit l'apôtre Jacques, « et que par ses œuvres, la foi fut rendue parfaite. » Ce texte est suffisant pour prouver que la foi seule ne sauve pas. Si elle n'est qu'un simple assentiment de l'intellect, elle ne mérite pas de s'appeler la foi. D'où vient la foi? Autre sujet de discorde. Pour certains, c'est un don miraculeux. Pour l'apôtre Paul, la foi vient de ce qu'on entend, la parole de Christ. C'est pourquoi il insiste tellement dans une de ses lettres sur la nécessité d'envoyer des prédicateurs qui apporteront cette parole créatrice de la foi. C'est pourquoi le Christ lui-même enverra ses apôtres dans le monde avec l'ordre de prêcher et d'enseigner. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Prenons ensuite le sujet du repentir. Nombreux sont ceux qui n'en font pas mention dans leurs enseignements sur le salut. Pourtant, cet aspect de la conversion de l'individu est partout souligné avec force comme une condition sine qua non du salut. Dans la bouche du Christ, de l'apôtre Paul, de Pierre, partout dans le Nouveau Testament. Puis il y a la grande question du baptême. On a pu dire que si les hommes pouvaient se mettre d'accord sur cette question-là, toutes les autres seraient vite réglées, et c'est bien possible. Je ne crois pas que la divergence de vue résulte d'une difficulté quelconque à comprendre le texte biblique. Il est trop clair pour cela. Voyez plutôt. Voici Jésus qui donne l'ordre à ses apôtres d'aller enseigner toutes les nations et de les baptiser pour en faire des disciples. Voici l'apôtre Pierre qui, répondant à un cri de la foule, « Que devons-nous faire ?» répond sans hésiter, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. » Il préside aussi au baptême des premiers païens reçus dans le sein de l'Église. Voici l'évangéliste Philippe, en Samarie, qui prêche et baptise les hommes et les femmes qui croient en son message. On le voit encore baptiser un ministre de la reine d'Éthiopie. Voici enfin Saul de Tarse, qui deviendra l'apôtre Paul et qui lui aussi se convertit au Christ en se faisant baptiser en son nom pour laver ses péchés. En fait, le livre des Actes des apôtres est rempli de ces exemples de conversion. Et dans chaque cas qui est rapporté, le baptême est au bout de l'itinéraire qui mène l'homme croyant, repenti, vers son Dieu. Il n'y a pas d'exception. Dès lors, par quelle autorité enseigne-t-on encore que le baptême n'est pas nécessaire au salut? En outre, parmi tous ceux qui pratiquent le baptême, on constate qu'il y a encore des différences quant à la forme de ce rite. Le baptême biblique est une immersion complète dans l'eau. Personne ne le conteste. On se faisait baptiser dans l'eau et non pas avec de l'eau. C'est pourquoi Jean-Baptiste avait choisi de baptiser ceux qui venaient à lui dans un endroit où il y avait beaucoup d'eau. On comprend mieux pourquoi Paul compare le baptême à un ensevelissement et à une résurrection. Cette comparaison à elle seule est apte à décourager toute tentative de compromis ou de rationalisation, comme par exemple le fait de dire que la forme du baptême, aspersion ou immersion, n'est qu'une question de détail. Il est vrai que le salut ne se limite pas qu'à la foi, au repentir et à l'immersion. À quoi me sert d'être baptisé comme il le faut si je hais mon prochain et convoite ce qu'il possède? Ce n'est pas le baptême seul qui peut me sauver, pas plus que la foi seulement. Ils sont essentiels au salut, mais il ne faut pas hypertrophier leur rôle, car tout aussi importants sont l'amour, l'humilité et la droiture devant Dieu. Que le Seigneur nous aide à prendre sa parole tout entière telle qu'elle est, pour devenir des chrétiens entiers sans étiquette superflue, orgueilleuse et divisante, aussi longtemps que nous préférerons nos habitudes, nos traditions, notre confort, nos opinions à l'autorité de la parole de Dieu, il nous faudra demeurer séparés. Le secret est contenu dans cette déclaration de Jésus. Quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Mes chers amis, si je n'avais plus qu'un sermon à prêcher, voilà ce que je vous dirais.